cruising down the 110. Drop the top off of my Duncan and hit my
forehead. 105.5 FM.
Walking in the midnight sun.
Bonjour à tous et bonjour à toutes, vous écoutez Radio G et c'est maintenant l'heure de Bibliosphère, l'émission où vous avez rendez-vous avec le réseau des bibliothèques de la ville d'Angers. Bienvenue. Un mercredi sur 2 à 17h, vous gardez le lien avec vos bibliothécaires, médiathèques et ludothèques favorites. Et pour retrouver les émissions précédentes, vous pouvez vous rendre sur le site de Radio G, www.radio-g.fr, à la page de Bibliosphère. C'est la dernière fois que vous entendez l'émission à l'antenne cette saison, mais vos bibliothécaires continuent de vous accueillir et ont bien sûr préparé des choses pour la saison estivale. L'émission aujourd'hui est animée par Stéphanie. Bonjour Stéphanie.
Bonjour Annie.
Bibliothécaire fiction et littérature à la médiathèque Toussaint. Il y a également Mathieu. Bonjour Mathieu.
Bonjour Annie, très chers auditeurs, bonjour, et auditrices bien sûr.
Qui est bibliothécaire à Saint-Nicolas, dans la Doutre. Et enfin, il y a Pascal, bonjour Pascal.
Bonjour.
Responsable de l'action culturelle et de la communication pour le réseau. Merci à vous d'être là. Alors c'est la 8e et dernière émission de la saison. Et avant de passer à la programmation d'été, vous avez préparé un tableau estival. On va voir les futures actualités, les nouvelles du réseau, et c'est avec Pascal.
Oui, dernière émission, mais peut-être voilà des, comme on dit, d'autres épisodes peut-être à venir, même sûrement cet été, on verra peut-être à la rentrée. Oui, alors donc dans les actus, eh bien le côté pratique déjà, c'est l'été arrive, même si la météo contredit un peu parfois cet été. Donc il y a des horaires, des aménagements un petit peu qui changent pour les bibliothèques, ludothèques. Donc, le mieux, je ne veux pas tout détailler, c'est de retrouver, soit de téléphoner au 02 41 24 25 50, pardon, soit de récupérer la plaquette des horaires et des informations pratiques dans toutes les bibliothèques et ludothèques. Et ces bibliothèques, ludothèques vont vous proposer pendant tout l'été des rendez-vous dedans, dehors, et aussi des bibliographies et des coups de cœur. Stéphanie.
Oui, Pascal, on avait envie un peu de mettre en avant nos collections. Et puis, bon, l'été, c'est la saison par excellence où on peut parfois se poser sur un transat ou à l'ombre et bouquiner. Donc, à Toussaint en particulier, vous allez retrouver une biblio qui s'intitule « Dans la valise 2 », où chaque bibliothécaire a eu à cœur de mettre en avant ses lectures préférées, ses coups de cœur, ou même ses films et ses CD musicaux préférés. Pour mettre en avant les romans de Toussaint, on achète quand même pas mal de romans tout au long de l'année. Et là, avec la période Covid, vous n'avez peut-être pas pu accéder à nos rayonnages comme vous l'auriez souhaité. On va proposer une biblio qui s'appelle 100% estivale, où que ce soit du polar, des romans un peu plus ruraux ou historiques, ou même des romans sentimentaux. Vous allez retrouver plein de titres et plein d'idées, plein d'envies de lecture. Et pour finir, pour clôturer un peu cette saison estivale, une revue de tout ce qui a été évoqué dans les émissions Bibliosphère, avec une bibliographie qui reprendra les références qu'on aura évoquées pendant ces 8 émissions.
Voilà, donc un grand paquet de lectures et de propositions. Et puis, comme disait Stéphanie, on sera dans les transats, parce qu'effectivement, il y aura beaucoup d'animations dehors, notamment dans les quartiers, avec ce qu'on appelle les pieds de bâtiment, les pieds de batte, et des propositions d'histoires, de jeux, d'ateliers, de rencontres avec des illustrateurs. Et puis, dans le centre-ville, également, à l'intérieur, des visites VIP, les coulisses de la bibliothèque, si vous souhaitez. Le 3 juillet, il y a une visite. Et il y a également l'exposition Jean-Adrien Mercier, avec également des visites commentées le 6 juillet. Et puis, dehors, dans le Jardin des Beaux-Arts, il y aura également une programmation. Donc, ne pas hésiter non plus à venir dans les bibliothèques. Il y a une plaquette qui va donc résumer toute cette programmation d'été.
C'est bon pour les actus ?
C'est bon pour les actus.
Eh bien, merci beaucoup, Pascal. On passe à la suite, au début de ce tableau estival.
Alors, sur ce tableau estival, Mathieu, qui voyons-nous ?
Eh bien, tout d'abord, du sport. En feuilletant la presse, difficile d'échapper au football et à la Coupe d'Europe. En espèce, cet événement sportif est tous les jours à la une des quotidiens, et pas seulement sur celle du journal L'Équipe. Bon, j'avais pas prévu la défaite de l'équipe de France hier, qui va bien évidemment décevoir les fans, mais on continuera, je pense, de lire bien sûr de l'actualité footballistique, et notamment donc dans le journal L'Équipe. Ce quotidien sportif présent dans quelques bibliothèques du réseau est accompagné en fin de semaine du supplément L'Équipe Magazine, qui se consacre plus à des articles de fond fort bien illustrés. Le journal ne se contente pas de travailler avec d'excellents photographes, il soigne également la qualité rédactionnelle des articles grâce à une équipe de journalistes dont la plume se révèle tour à tour précise, sans détour, chaleureuse ou imagée. Par exemple, et vous le connaissez peut-être, la plume de Vincent Duluc, spécialisé notamment dans le football. Ce journaliste est présent en bibliothèque et pas seulement au rayon de la presse sportive. Par exemple, à la bibliothèque Saint-Nicolas, vous le trouverez sur notre table de sélection « C'est dans la poche », qui propose, comme son nom l'évoque, un choix d'ouvrages très variés en format poche au tirage récent, avec un inédit « Les mots du football ». Comme l'été va bien finir par s'installer et les vacanciers de se dévêtir sur les plages, je vous propose le court chapitre « Caleçon ». Caleçon. Dans les vestiaires, signe de notre âge, on a entendu « slip », « culotte », « caleçon », « calbut », « boxer », mais plus rarement « string », on le confesse. Dans les vestiaires, signe de notre âge, tout ce tissu restait au sec et le joueur allait se doucher à poil. Dans les vestiaires, signe des temps, la moitié des joueurs gardent désormais leur caleçon sous la douche. L'idée de la pudeur et de la religion a gagné du chemin. Ce n'est ni mieux ni moins bien. Cela dit juste que le monde change et que ses influences sont multiples. Le prix à payer est considérable. Il devient plus difficile de garder toute une saison le slip qui gagne. Mais les footballeurs superstitieux conservent cette pratique qu'ils ne remettent pas forcément en cause à la première défaite. Que les foules inquiètes se rassurent, s'ils enfilent le même slip sous leur short à chaque match, ils le lavent entre-temps. Mais sous l'effet de la haute compétition, il arrive que ces dessous du football deviennent des reliques avant la fin d'une saison qui, dès lors, ne tient plus qu'à un fil. Vincent Duluc, comme vous l'avez entendu, aime écrire, et pour info, vous le retrouverez également au rayon nouveauté avec le roman Carol and Clark. Entendez l'actrice hollywoodienne Carol Lombard et son acteur de mari Clark Gable. Pour ma part, j'aime sa plume où se cachent intelligence, tendresse, humour et souvent nostalgie.
Du sport, des livres de poche, Vincent Duluc, quoi d'autre au tableau estival, Mathieu ?
La question de notre quiz habituel, bien sûr. Voici la question. À propos du Tour de France, qui a pris le départ il y a quelques jours, quel groupe de musique électronique a produit un morceau justement baptisé Tour de France ?
Oh mais je sais, Kraftwerk.
Indice 1983. Voilà, Stéphanie a donné la réponse. Je vous ai quand même donné l'indice. Vous trouverez bien sûr ce titre sur un CD en collection à discothèque Toussaint. Alors, du coup, je vais vous dire le titre du CD. Hein. C'est donc du groupe Kraftwerk Minimum Maximum. C'est un CD de 2005.
Tour de France, Tour de France.
Et encore.
Et bien encore sur notre tableau estival du grand art. Celui de Léa Simone Allegria et de son dernier roman, Le Grand Art, justement, paru en 2020 aux éditions Flammarion, qu'un critique a qualifié comme ceci, Le Grand Art, la salle des ventes en mode thriller. Pour ma part, j'ai adoré cette lecture. Alors avec Stéphanie, nous allons vous en lire un extrait, non sans en avoir situé le contexte comme ceci. Paul Vivienne, commissaire-priseur en fin de carrière pour une prestigieuse maison de vente aux enchères, inspecte le château et les trésors qu'il est censé contenir pour estimer la succession d'un homme d'affaires italien dont il a négocié de haute lutte auprès de sa veuve d'orchestrer la vente. Hélas, les collections se révèlent complètement inintéressantes et c'est très déçu qu'il va s'isoler dans la minuscule et sombre chapelle de l'autre côté de la cour pavée du château. C'est là qu'il découvre par hasard un tableau poussiéreux, une Vierge à l'enfant, dont la vision l'émeut au plus haut point. Mais voilà que la jeune experte en art ancien, qui lui a été envoyée par son cabinet d'expertise et dont il a auparavant fait la connaissance, pénètre à son tour dans la chapelle.
Marianne ne pouvait pas savoir. Elle fumait sa clope dans la cour, elle a vu la porte de la chapelle entrouverte. Si elle avait su que le commissaire-priseur était à l'intérieur, à quatre pattes, en train de prier, elle ne serait jamais entrée. Merde, et comment je m'en sors maintenant ? Elle voudrait faire demi-tour, mais elle a peur du bruit qu'elle provoquera. La porte n'a pas bougé. Elle s'est glissée dans l'ouverture sans même frôler le fer. Rouillée, froid, sale. Ah non, 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 c'est pas bon, pas bon du tout. Il ne prie pas. Il a le nez presque collé sur un retable dont il gratte la surface peinte avec son ongle. Elle tousse. Il se retourne brusquement, ses lunettes au bout du nez.
Ah, vous tombez bien, Marianne Javert. Inspecteur Marianne Javert, vous tombez très très bien.
Désolé, je...
Regardez. Il se relève, il essuie ses mains sur son pantalon. Qu'est-ce que vous en pensez? Attendez, regardez, là, et l'aile, là, vous avez vu? Et la main, elle est formidable. Elle n'est pas formidable, elle est formidable.
Marianne a besoin de quelques secondes. Un primitif italien, dans une chapelle. Comme ça, c'est une surprise. Et lui, là, complètement survolté, tout blanc. Ça sent pas bizarre, ici? Il a fumé un ouinge ou quoi? Oui, oui, faudrait la voir à la lumière.
Eh bien, aidez-moi, on va la sortir, on va la sortir, hein. On n'a qu'à la sortir. Paul n'attend pas. Il se rue sur la Madone en renversant au passage le prie-dieu de Benvolo Cassai. Allez, venez, aidez-moi. Ils décrochent ensemble l'œuvre des paters. Depuis combien de temps n'a-t-elle pas vu le jour? Oh, elle pèse une tonne!
C'est bon signe. Marianne déteste les toiles d'araignée, mais elle se contient. Ils placent leurs joues contre le bois. Le retable n'est pas grand, leurs mains pourraient se toucher, même leurs bras. Elle pense à son pull. Super, merci, il va me niquer mon cachemire.
Paul donne un grand coup de pied dans la porte. Alors? Il ne peut s'empêcher de l'admirer discrètement. Elle est toute blonde, Marianne, ses yeux fins, sa mèche de cheveux lisses. Et quand elle se baisse pour étudier le pied nu de la Vierge, le bas de son dos soudain se découvre.
C'est une Vierge d'humilité.
Le terme technique ramène Paul au réel. Les Vierges d'humilité sont celles qui n'ont pas de trône. Elles sont assises à même le sol.
Un thème iconographique très courant après la Grande Peste. On a cherché à rendre la Vierge plus humaine, plus proche des hommes. La moitié de la population est morte en un été. Des cadavres partout. On avait besoin qu'elle comprenne. Marianne souffle sur le panneau. Les nimbes dorées sont ouvragées, dentelées au poinçon. Or sur or. Le travail est extrêmement minutieux. Peut-être un orfèvre?
Bon, bon, quelle date? Paul se surprend lui-même. Il a entièrement recouvré ses esprits. Il pense aux chiffres.
La peste noire, c'est 1348. Je dirais 1350-1400. Pas plus tard, parce qu'après, on repeint la Vierge en majesté, ou en vision céleste, sur des nuages. Le rouge-gorge aussi, c'est un thème qui date de cette époque. Au Cinquecento, on lui préfère la pomme ou la grenade. C'est la même chose.
Le symbole du sacrifice du Christ qui rachète les péchés de l'humanité.
Voilà.
Et là, voyez, O-S-A, qu'est-ce que c'est?
Marianne cherche sur son iPhone. O-S-A, Ordo Sancti Augustini. C'est l'ordre des Augustins, les frères mendiants. Elle fait quelques pas en arrière. Incontestablement, c'est un peintre de Florence.
Un Florentin, c'est vrai? Pourquoi? Il sourit, un Florentin. Il s'est toujours senti proche des Florentins.
Regardez les visages. L'accent est porté sur le naturalisme, la ressemblance. Les Florentins cherchaient à copier le réel. C'est d'ailleurs ce qui les a conduits à découvrir la perspective. Mais oui d'ailleurs, c'est pas possible. Elle fait des petits pas, d'abord d'un côté, puis de l'autre.
C'est un faux?
Ça ne colle pas, il y a un truc qui va pas. Elle retourne dans la grande salle au pas de course.
Ah tiens, enfin, j'ai réussi à l'intéresser. Elle est vivante, elle se réveille. Sur le puits à côté du retable, il récupère son verre de rouge. Il attend, il hésite à lancer une partie d'échecs en ligne, mais elle déboule comme une tornade, sa règle à la main, toute nerveuse. Elle place la règle sur le bois avec délicatesse, aux endroits stratégiques. Paul tient le panneau comme si la madone risquait de s'échapper.
Voyez ? Regardez, la table marque la ligne d'horizon. Bon, maintenant le carrelage, voilà. C'est facile quand il y a du carrelage, comme ça. C'est simple de s'en rendre compte.
La règle de Marianne suit les lignes de fuite du carrelage. Paul comprend vite, c'est vrai que c'est simple. La main de la madone est le point de fuite, le centre, toutes les lignes convergent vers elle, et nos regards aussi.
Exactement.
Et alors, c'est pas bien ?
Ça ne vous dit rien à vous ?
Ben, si, ça me rappelle Vermeer.
Oui, très bien, super, mais aucun rapport. Alors, quoi de Vermeer, quoi ?
Oh, elle a un côté maîtresse d'école. Toutes les mêmes, les experts. Je ne sais pas, le carrelage.
Mais la perspective ! L'illusion du réel. Le peintre connaît les lois de la perspective.
Oui, c'est ça.
Les lois mathématiques de la perspective.
Oui.
Mais justement, c'est impossible. C'est Brunelleschi qui invente la perspective. Et le premier à la traduire en peinture, c'est Masaccio. Et c'est en 1425.
Ah, on a un problème de date.
Voilà.
Alors c'est un faux ?
Je ne sais pas. Les craquelures sont parfaites. C'est dur à dire, avec les moyens qu'ils ont aujourd'hui.
Marianne a le nez collé sur la peinture.
Venez, on va le mettre à l'intérieur, j'ai besoin de ma lampe.
Peut-être que les frères mendiants se sont sentis proches de la Vierge d'Humilité. C'est dans leur thème, ça, non ? Même si c'était passé de mode.
C'est vrai, par terre et pieds nus, tout ce qu'ils aiment. Mais le rouge-gorge et le fond d'or, il n'y en a plus des fonds d'or à la Renaissance.
Un fausseur aussi doué n'aurait quand même pas fait une telle erreur iconographique.
Vous savez, il se trompe souvent dans les détails. Il peut faire un mix de plusieurs tableaux pour en créer un, mais il se trompe dans la chronologie. Il pêche par anachronisme.
Alors vous dites que c'est un faux ?
Non. Elle parcourt la surface peinte, sa lampe infrarouge à la main avec ses lunettes de piscine. Le squelette de la Vierge. Les faussaires reprennent des panneaux d'époque dont ils grattent la peinture, mais il reste souvent les contours d'origine. Ici, rien. Pas de tableau sous le tableau. Les tracés ont légèrement été repris, surtout pour le décor. Peut-être par le peintre lui-même.
Paul fait les 100 pas. Alors ?
Maître, vous me pressez !
Elle m'a appelé maître. Mais non, mais alors ? Quelles sont les hypothèses ?
Elle se relève et époussette ses mains l'une contre l'autre. Il y en a deux. Soit c'est l'œuvre d'un peintre précoce de l'entourage de Brunelleschi, vers 1410-1420. Soit c'est un faux.
Vous pensez pour laquelle des deux ?
Marianne observe à nouveau le retable, l'enfant, la Vierge, les poinçons, la colombe. Il faudrait le faire restaurer pour y voir plus clair. Je n'ai pas assez d'éléments. Il faut le faire analyser. Morin ne voudra jamais, c'est trop cher. Elle ne peut donc se fier qu'à une chose, son intime conviction. Étant donné la qualité de l'œuvre, je vous propose une estimation entre 20 000 et 30 000. Maître anonyme, Florence, première moitié du 15e.
Paul est évidemment reconnaissant. Elle aurait pu mettre dans le goût de ou attribuer à ce qui aurait ruiné sa vente. Elle propose 30 000 balles pour un anonyme. Et si on le faisait expertiser et qu'il s'avérait que c'est un faux ? Rien. On n'aurait rien. Même si c'était l'œuvre retrouvée d'un maître précoce ? Un proche de Filippo Brunelleschi, peut-être même un Masaccio, la fortune et la gloire. C'est risqué, et alors, 30 000 balles, qu'est-ce que c'est, une vente médiocre ? Et puis l'experte, cette belle experte, il faut bien lui donner du travail. Il y a une expression en Italie qui dit « mieux vaut un œuf aujourd'hui qu'une poule demain ».
Un genre de « un tien vaut mieux que deux tu l'auras ».
Voilà, eh bien, moi j'ai toujours préféré la poule. On va le faire analyser, je m'occupe des frais.
Intrépide ce Paul Vivienne. Elle sourit. Drôle de façon de draguer. Moi, j'ai toujours préféré la poule.
Bon, allez, on a bien travaillé. Je vous emmène à dîner. À Montefiorale. Vous voyez le village en face, je connais un endroit. Paul n'y a jamais été, mais c'est sans importance. Il y aura toujours un endroit.
Merci beaucoup pour cette lecture. On part en voyage en Italie, après ce
oh
titre,
oui.
Avec Lily Cube. Thank you.
faire une virée à deux, tous les deux sur les chemins. Dans ton automobile, tous les deux on sera bien. Et dans le ciel il y aura des étoiles et du soleil quand on mettra les voiles. S'en aller tous les deux dans le sud de l'Italie et voir la vie en bleu, tout jouer sur un pari. Toute la nuit danser le calypso dans un dancing avec vue sur l'Arnaud. Au milieu de la nuit, et va la navette, va la douce vie. On s'en ira toute la vie danser le calypso en Italie. Et voir à la grecque tomba dans le troppo du grand Paris quand Paris est à long. S'en aller au matin boire un dernier martini et aller prendre un bain sur une plage à Capri. Voir sur ta peau le soleil se lever, à la Madone envoyer des baisers. Au milieu de la nuit, en catimini, et va la navette, va la douce vie. On s'en ira toute la vie danser le calypso en Italie. Et boire à l'air et ton main dans trop beau, du coup Paris quand Paris est à l'eau.
Sur la fréquence de Radio G, le 101.5 FM à Angers. Et c'est toujours Bibliosphère qui vous accompagne, l'émission animée par le réseau des bibliothèques de la ville d'Angers. Et alors ce tableau estival s'achève avec Stéphanie, aux couleurs de l'été, c'est bien ça ?
Oui, Anne-Li, je voudrais ajouter quelques touches de couleurs au tableau estival. Du bleu, du rouge, du vert, du rose. Vous ne devinez pas ? Il s'agit de la très jolie collection « Un été avec », coéditée par France Inter et Les Équateurs. Une collection qui a presque 10 ans maintenant et chaque été sort un nouveau volume. Il existe déjà « Un été avec Montaigne », « Un été avec Baudelaire », « Un été avec Pascal » par l'auteur Antoine Compagnon, « Un été avec Proust » par plusieurs auteurs dont Raphaël Etoven et Antoine Compagnon également, ou encore « Un été avec Victor Hugo » par Guillaume Gallienne et Laura Elmaki. Voilà certains titres parmi tant d'autres. Ces livres sont de beaux objets littéraires, tant sur la forme que sur le fond. Il s'agit d'un petit format, coloré, agréable à manipuler et à l'intérieur un propos court et bien ficelé. Alors le principe, avant d'être un livre, Un été avec, c'est d'abord une série d'émissions estivales, proposées chaque été sur France Inter. Mathieu, Annie, Pascal, vous avez peut-être déjà eu l'occasion d'en écouter.
On n'écoute pas les radios concurrentes.
On fait nos propres séries.
Dans ces petites chroniques de quelques minutes, un ou plusieurs auteurs prennent la parole pour parler des figures que j'ai citées, des océans à eux tout seuls. Ces chroniques sont ensuite réunies pour constituer l'un de ces petits livres colorés, et le tout dernier est sorti en mai. Son titre est « Un été avec Rimbaud » et il est orange, comme le soleil d'Abyssinie où Rimbaud est allé de se perdre.
Son auteur, Sylvain Tesson, est un écrivain voyageur très lu, très connu. Chacun de ses livres est un événement. C'est déjà Sylvain Tesson qui est l'auteur d'Un été avec Homère. Et c'est très intéressant que ce soit lui qui nous entraîne sur les traces de Rimbaud, parce que ces deux-là se ressemblent sur beaucoup de points. Ce sont deux éternels voyageurs, plutôt solitaires, amoureux des mots et de la marche. Le célèbre aventurier nous convie en quelque sorte sur les traces du célèbre poète. Le livre peut tout à fait s'envisager comme une invitation au voyage. Pour Sylvain Tesson, je cite, « La marche, état suprême de la poésie, est avec la littérature l'antidote à l'ennui. » Juste magique cette phrase. Il raconte donc Rimbaud, ce poète épris de liberté, qui va voyager de la France vers l'Europe, puis de l'Europe vers l'Afrique. Tesson écrit encore « La poésie de Rimbaud décoche des bouquets de feu ». Et je trouve que c'est aussi une bien belle phrase pour résumer celui qui a rédigé le recueil de poèmes « Les Illuminations ». Dans la première partie, le chant de l'aurore, la jeunesse de Rimbaud est évoquée de manière brève. On y découvre que le futur aventurier est un élève modèle de formation classique. Rimbaud décide très tôt d'être poète, mais attention, pas un poète de salon. Il fait sensation avec le bateau ivre qu'il a écrit à 16 ans et qui le place en avance sur son temps, très à l'avant-garde. Dans la deuxième partie, le chant du verbe, il montre un être complexe, une science du langage hors norme qu'il a fait passer à la postérité. Est-ce que vous saviez que abracadabrantesque est une invention de Rimbaud ?
Non, là je découvre.
Il l'a constitué à partir de abracadabra. Sylvain Tesson raconte ensuite ce qu'il appelle son ensauvagement, son envie de se confronter au danger et à l'illégalité. Rimbaud va en effet verser dans le trafic d'armes en Abyssinie sur le continent africain. La troisième partie, le chant des pistes, est une éloge de la marche, une pratique assidue d'Arthur Rimbaud comme de Sylvain Tesson. Bref, vous l'aurez compris, Arthur Rimbaud est un écrivain romanesque par excellence. Je ne pouvais pas laisser cette occasion, en évoquant Rimbaud, de vous lire un petit extrait de sa poésie, donc j'ai choisi un extrait du Bateau ivre, qu'il a écrit, donc il avait tout juste 16 ans. Plus léger qu'un bouchon, j'ai dansé sur les flots qu'on appelle rouleur éternel de victimes, 10 nuits sans regretter l'œil niais des falots. Plus douce qu'aux enfants la chair des pommes sûres, l'eau verte pénétra ma coque de sapin et des taches de vin bleu et des vomissures me lava, dispersant gouvernails et grappins. Et dès lors, je me suis baignée dans le poème de la mer, infusée d'astres et lactescent, dévorant les azurs verts, où flottaison blême et ravie un noyer pensif parfois descend, où teignant tout à coup les bleuités, délire et rythme lent sous les rutilements du jour, plus forte que l'alcool, plus vaste que nos lyres, fermente les rousseurs amères de l'amour. Voilà, on a un petit peu comme ça dans l'oreille la plume d'Arthur Rimbaud. Alors, Sylvain Tesson n'est pas encore une figure iconique comme les Rimbaud, mais il est lui aussi un écrivain romanesque et une vraie plume. Et ce sera ma dernière touche au tableau estival, Mathieu, si tu le veux bien, en forme de ligne de fuite.
La perspective.
Voilà, une invitation à découvrir ces livres si vous ne les connaissez pas. Dans les forêts de Sibérie, sorti en 2011, relate ses 6 mois de vie en ermite dans une cabane au sud de la Sibérie, au bord du lac Baïkal. Il y expose sa recette du bonheur, une fenêtre sur le Baïkal, une table devant la fenêtre. Voilà, minimaliste. Bérézina, en 2015, raconte un voyage en moto et sidecar de Moscou à l'hôtel des Invalides à Paris. Alors pourquoi cet itinéraire ? Le titre vous met peut-être la puce à l'oreille. C'est en fait le trajet de la retraite de Russie menée par Napoléon Ier. Il a eu le prix Renaudot en 2019 avec son livre « La panthère des neiges » sur les traces de l'animal aux apparitions rares des hauts plateaux du Tibet. Et un dernier parmi tant d'autres, « Sur les chemins noirs » sorti en 2016, raconte sa traversée à pied de la France du Mercantour jusqu'à La Hague en Normandie en ne choisissant que les petits chemins. Ça lui a pris 2 mois et il a fait ça pour se remettre d'une grave chute d'un toit qui l'a conduit dans le coma 2 ans auparavant. Voilà qui pose le personnage. Donc tous ces livres, que ce soit la petite collection Un été avec et les titres de Sylvain Tesson, sont bien sûr disponibles dans l'ensemble des bibliothèques du réseau.
Très bien, merci beaucoup pour ces nouveaux conseils de lecture. On arrive au terme de cette émission. Qu'est-ce que... C'est la dernière.
Que pourrait-on bien dire ?
Je crois, Pascal, que tu as des choses à nous dire avant.
Ah, peut-être ! Eh bien oui, c'était le 8e épisode de la première saison de Bibliosphère, donc on a l'impression qu'on part dans une série, mais en fait, on ne sait pas exactement ce qui va se passer, ou si. il va se passer quelque chose cet été, on va en parler tout à l'heure. En tout cas, cette émission, on peut dire qu'au départ, il y a eu Mathieu qui a voulu radicalement cette émission pour le public. Donc on a voulu, dans le cadre du plan de lutte contre l'isolement, pour garder le contact avec le public et puis proposer sur un canal